Partie 3. Compréhension orale. Vous allez écouter 3 enregistrements. Vous entendrez chaque enregistrement 2 fois. Écoutez-les attentivement et répondez aux questions qui vous sont posées pour chacun des enregistrements. Avant la première écoute de chaque enregistrement, vous disposerez de temps afin de lire les questions relatives à chacun d'eux. Les réponses incorrectes n'entraîneront aucune pénalisation lors de l'évaluation de cette partie de l'épreuve. Une fois que vous aurez écouté le dernier enregistrement, vous disposerez de temps pour remplir la feuille de réponse. Une fois ce temps écoulé, tout le matériel de l'épreuve sera recueilli et aucun temps additionnel ne vous sera accordé. Veuillez indiquer vos réponses sur la feuille de réponse 3. Vous pouvez utiliser ce fascicule pour prendre vos propres notes. Cependant, tenez compte que les réponses que vous indiquerez dans le présent fascicule ne seront en aucun cas évaluées. Tâche 1. Vous allez entendre à présent un discours. Écoutez attentivement et complétez les affirmations proposées ci-dessous, 1 à 5. Vous devrez choisir une seule réponse parmi les 3 propositions. Veuillez indiquer vos réponses sur la feuille de réponse numéro 3. Tâche 1. Vous avez maintenant 1 minute pour lire les questions.
Bienvenue sur Géopolitis. C'est un objet courant qui est fabriqué en 1 seconde, qui sert en moyenne 20 minutes, mais qui peut mettre jusqu'à 400 ans pour se décomposer dans la nature. Cet objet, eh bien, nous l'avons tous utilisé par milliers. C'est le sac plastique, celui dit à usage unique, que l'on trouvait dans tous les grands commerces. Je dis « trouvait », car les habitudes de consommation changent, et si elles changent ces habitudes, c'est que un sac en plastique dans la nature, ça va, mais des milliards de sacs en plastique, bonjour les dégâts. Et des milliards de sacs, eh bien, il y en a eu. On estime que dans le monde entier, on aurait fabriqué pas loin de 1000 milliards de ces sacs plastiques à usage unique. En un an, au niveau de l'Union européenne, il en circulerait en gros 100 millions. Le grand problème, c'est que une large proportion va finir en déchets sauvages, dans la nature, dans des décharges à ciel ouvert, dans les forêts, sur le littoral ou dans les mers. Géopolitis revient sur cette pollution massive et sur le fait que certains pays ont déjà pris des mesures drastiques. C'est vrai qu'il a bien servi, ce sac en plastique. Il a fait une apparition spectaculaire il y a bientôt 30 ans. Au début, on s'est contenté d'y voir une prouesse technologique bien utile. Pensez donc, un emballage tout fin, une épaisseur de 50 microns, et qui est super solide. Un sac comme ça est capable de supporter une charge 2000 fois supérieure à son propre poids. En plus, dans la quasi-totalité des commerces, supermarchés, petites et grandes surfaces, eh bien, c'était gratuit. On pouvait même s'en resservir pour autre chose, enfin, du reste, jamais pour retourner faire ses courses. Et puis, tout a changé. On s'est rendu compte de la pollution massive qu'entraînait ce mode massif de consommation. D'ailleurs, on disait « sac jetable ». Et bien des consommateurs ont cru ou voulu croire qu'on pouvait les jeter partout, n'importe comment. Pollution sur la terre, pollution dans les mers, et toujours avec cette caractéristique catastrophique d'une durée de vie de plusieurs siècles. Certains pays, on l'a dit, ont réagi très vite, se sont engagés sur la voie des produits de substitution. Exemple en Suisse romande, où l'on promeut des sacs biodégradables. Substitution, recyclage, interdiction, toutes les pistes sont actuellement suivies. En novembre dernier, la Commission européenne à Bruxelles a sommé les États membres de réduire effectivement l'usage de ces sacs en plastique à usage unique, sachant que 8 milliards de ces sacs en moyenne finissent par asphyxier les sols et les mers européens. Il y a des bons et des mauvais élèves. Alors allons-y, parmi les mauvais élèves qui n'ont pas encore pris de mesures, il y a entre autres la Pologne ou Chypre. Et parmi les bons élèves, citons-les aussi, il y a l'Irlande, la Finlande ou le Luxembourg. Un exemple parlant, suite à une taxation dissuasive et aussi suite à l'arrivée des produits biodégradables, un habitant du Danemark n'utilise aujourd'hui que 4 de ses sacs en plastique par an. Un Polonais, un Portugais ou un Slovaque en utilise un peu plus de 400. Il y a quelque chose d'assez choquant dans le processus de non-utilisation de ces sacs plastiques à usage unique. Au début, en tout cas dans la plupart des grandes surfaces, on l'a dit, ce sac en plastique était gratuit. Cela faisait partie des avantages à se rendre dans de tels commerces. Donc, on a décidé de ne plus en offrir à la clientèle. À la place, et c'est heureux, on a proposé aux consommateurs un type ou un autre de sac biodégradable. Seulement, ce sac-là, dans bien des enseignes, désormais, on le fait payer. C'est tout bénéfice pour les grands noms de la distribution. Bref, au nom de l'écologie, on vend aujourd'hui ce que hier on donnait. Autre problème, ces sacs de substitution ne sont pas toujours performants et parfois même, ils sont aussi coûteux en termes d'énergie que les anciens sacs. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces bons vieux sacs en plastique servaient aussi de poubelle pour jeter ses ordures domestiques. Le consommateur a dû trouver autre chose et autre chose, c'est le sac poubelle, le vrai, plus gros, plus cher, et c'est un fait encore plus gourmand en matière plastique que le petit sac que l'on trouvait en caisse. En somme, un combat est gagné, mais d'autres ne font que commencer. Bienvenue sur Géopolitis. C'est un objet courant qui est fabriqué en une seconde, qui sert en moyenne 20 minutes, mais qui peut mettre jusqu'à 400 ans pour se décomposer dans la nature. Cet objet, eh bien, nous l'avons tous utilisé par milliers. C'est le sac plastique, celui dit à usage unique, que l'on trouvait dans tous les grands commerces. Je dis « trouvait ». Car les habitudes de consommation changent, et si elles changent ces habitudes, c'est que un sac en plastique dans la nature, ça va, mais des milliards de sacs en plastique, bonjour les dégâts. Et des milliards de sacs, eh bien, il y en a eu. On estime que dans le monde entier, on aurait fabriqué pas loin de 1000 milliards de ces sacs plastiques à usage unique. En un an, au niveau de l'Union européenne, il en circulerait en gros 100 millions. Le grand problème, c'est que une large proportion va finir en déchets sauvages, dans la nature, dans des décharges à ciel ouvert, dans les forêts, sur le littoral ou dans les mers. Géopolitis revient sur cette pollution massive et sur le fait que certains pays ont déjà pris des mesures drastiques. C'est vrai qu'il a bien servi, ce sac en plastique. Il a fait une apparition spectaculaire il y a bientôt 30 ans. Au début, on s'est contenté d'y voir une prouesse technologique bien utile. Pensez donc, un emballage tout fin, une épaisseur de 50 microns, et qui est super solide. Un sac comme ça est capable de supporter une charge 2000 fois supérieure à son propre poids. En plus, dans la quasi-totalité des commerces, supermarchés, petites et grandes surfaces, eh bien, c'était gratuit. On pouvait même s'en resservir pour autre chose. Enfin, du reste, jamais pour retourner faire ses courses. Et puis, tout a changé. On s'est rendu compte de la pollution massive qu'entraînait ce mode massif de consommation. D'ailleurs, on disait « sac jetable ». Et bien des consommateurs ont cru ou voulu croire qu'on pouvait les jeter partout, n'importe comment. Pollution sur la terre, pollution dans les mers et toujours avec cette caractéristique catastrophique d'une durée de vie de plusieurs siècles. Certains pays, on l'a dit, ont réagi très vite, se sont engagés sur la voie des produits de substitution. Exemple en Suisse romande, où l'on promeut des sacs biodégradables. Substitution, recyclage, interdiction, toutes les pistes sont actuellement suivies. En novembre dernier, la Commission européenne à Bruxelles a sommé les États membres de réduire effectivement l'usage de ces sacs en plastique à usage unique, sachant que 8 milliards de ces sacs en moyenne finissent par asphyxier les sols et les mers européens. Il y a des bons et des mauvais élèves. Alors allons-y, parmi les mauvais élèves qui n'ont pas encore pris de mesures, il y a entre autres la Pologne ou Chypre. Et parmi les bons élèves, citons-les aussi, il y a l'Irlande, la Finlande ou le Luxembourg. Un exemple parlant, suite à une taxation dissuasive et aussi suite à l'arrivée des produits biodégradables, un habitant du Danemark n'utilise aujourd'hui que 4 de ses sacs en plastique par an. Un Polonais, un Portugais ou un Slovaque en utilise un peu plus de 400. Il y a quelque chose d'assez choquant dans le processus de non-utilisation de ces sacs plastiques à usage unique. Au début, en tout cas dans la plupart des grandes surfaces, on l'a dit, ce sac en plastique était gratuit. Cela faisait partie des avantages à se rendre dans de tels commerces. Donc, on a décidé de ne plus en offrir à la clientèle. À la place, et c'est heureux, on a proposé aux consommateurs un type ou un autre de sac biodégradable. Seulement, ce sac-là, dans bien des enseignes, désormais, on le fait payer. C'est tout bénéfice pour les grands noms de la distribution. Bref, au nom de l'écologie, on vend aujourd'hui ce que hier on donnait. Autre problème, ces sacs de substitution ne sont pas toujours performants et parfois même, ils sont aussi coûteux en termes d'énergie que les anciens sacs. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces bons vieux sacs en plastique servaient aussi de poubelle pour jeter ses ordures domestiques. Le consommateur a dû trouver autre chose et autre chose, c'est le sac poubelle, le vrai, plus gros, plus cher, et c'est un fait encore plus gourmand en matière plastique que le petit sac que l'on trouvait en caisse. En somme, un combat est gagné, mais d'autres ne font que commencer.
Fin de la tâche 1. Tâche 2. Vous allez maintenant entendre une interview. Écoutez-la attentivement, puis indiquez si les affirmations proposées ci-dessous, 6 à 15, sont vraies, fausses ou si ce n'est pas dit. Veuillez indiquer vos réponses sur la feuille de réponse numéro 3, tâche 2. Vous avez maintenant une minute pour lire les affirmations.
France Info. Si nos autorités nous recommandent de manger 5 fruits et légumes par jour, ce n'est pas sans raison. Ces dernières années, les études scientifiques se sont accumulées pour démontrer l'impact très important de l'alimentation sur notre santé. Nous en parlons avec le docteur Viviane de la Guéronnière. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de santé publique. Vous êtes également auteur de nombreuses publications sur la nutrition. Et vous venez d'écrire aux éditions Odile Jacob « Les aliments, leur vrai pouvoir sur la santé ». Est-ce que ce titre est exagéré? Ou est-ce que les aliments ont réellement une action puissante sur notre organisme?
Alors aujourd'hui, on peut vraiment dire que les aliments ont un effet puissant sur notre organisme et notre santé. Il y a de très nombreuses études qui sont parues, qui sont publiées, souvent sur des dizaines de milliers de personnes. Et toutes ces études à travers le monde qui apportent des résultats convergents nous montrent maintenant à quel point les effets des aliments peuvent intervenir sur notre santé et nous protéger.
Quels sont les aliments qui ont un effet vraiment puissant, vraiment majeur sur la santé ?
Alors, par exemple, si on regarde la catégorie des fruits et légumes, on a des classes, par exemple, la classe des crucifères, c'est la famille des choux, en fait, mais aussi...
Choux, brocolis ?
Exactement, choux, brocolis, mais aussi radis, roquettes, même moutarde. Et ces aliments contiennent des composés qui s'appellent les isothiocyanates, bon, et qui sont, en fait, à l'origine d'effets protecteurs sur notre santé en interagissant avec nos cellules de façon précise.
Mais quel style d'effet protecteur sur quel type de maladie ?
Alors, on a des effets, des réductions de risque de maladies, de cancer notamment. Par exemple, on réduit le risque de cancer du poumon, de cancer digestif, de cancer de prostate, par exemple, avec cette catégorie de fruits, de légumes.
Est-ce qu'il y a, pour la prévention des cancers, d'autres aliments dont on a vraiment démontré l'efficacité ?
Oui, alors on peut citer les végétaux d'une façon générale, les fruits et légumes qui contiennent des caroténoïdes, par exemple.
Donc dans les carottes en particulier ?
Exactement, voilà. On a un effet qui est assez net de prévention du cancer du poumon chez les fumeurs.
Grâce au bêta-carotène ?
Oui, tout à fait. Alors, entendons-nous, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'arrêter de fumer, hein, c'est quand même la première chose à faire. Mais effectivement, on a observé que les personnes qui consomment beaucoup de bêta-carotène qui viennent des carottes, notamment, ont un risque diminué de contracter un cancer du poumon.
Ce bêta-carotène, on le trouve aussi en pharmacie sous forme de complément alimentaire. Qu'est-ce qui est le plus efficace ? Manger des carottes ou avaler des petites gélules ?
Alors, c'est manger des carottes. Et ça a été un peu une grande surprise de scientifiques il y a environ une quinzaine d'années. Ils avaient observé auparavant que les gens qui mangeaient des carottes, justement, étaient protégés relativement du cancer du poumon. Ils se sont dit, on va faire une grande étude, on va donner le bêta-carotène en gélule, puisque tout le monde n'a pas envie de manger des carottes, et on va regarder ce qui se passe. Donc, ils ont fait de très grandes études, une en Finlande, une aux États-Unis, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et en cours d'analyse, stupeur en fait, ils se sont rendus compte que non seulement le bêta-carotène n'était pas efficace, mais en fait, il favorisait même ce cancer du poumon chez les fumeurs.
Donc, si on le prend sous forme de gélule,
voilà,
il faut vraiment privilégier les légumes.
Voilà.
On parle beaucoup de la prévention de certains cancers ou des maladies cardiovasculaires par l'alimentation, mais est-ce que certains aliments ont aussi un pouvoir sur des maladies neurologiques comme Parkinson, Alzheimer ?
Oui, tout à fait. Alors, par exemple, pour le Parkinson, eh bien, on a observé que les gens qui consommaient davantage de café avaient un risque diminué de développer cette maladie. Et contre la maladie d'Alzheimer, par exemple, on a pas mal de données qui montrent les effets d'un régime méditerranéen avec du poisson, des fruits et légumes, une consommation modérée d'alcool, je dis bien modérée, et peut-être aussi le café.
Alors parfois, on se demande si les bienfaits de certains aliments ne sont pas montés en épingle par les industriels qui financent certaines recherches. Par exemple, le pouvoir qu'on prête au café, justement, mais au thé ou encore au chocolat, sont-ils exagérés ?
Alors, il est vrai qu'il faut toujours être vigilant sur l'origine d'une étude et bien regarder qui l'a financée, ce qui ne préjuge pas, bien sûr, de sa valeur. Mais en l'occurrence, un certain nombre d'études, effectivement, ont été financées. Beaucoup d'études ont été financées par des industriels. Et... Lorsqu'on retrouve des résultats positifs chez ces industriels, mais aussi au sein d'autres équipes qui ne sont pas du tout industrielles, qui sont publiques, lorsqu'on voit des résultats, encore une fois, convergents, eh bien on peut se dire que l'effet est tout de même réel.
France Info.
France Info. Si nos autorités nous recommandent de manger 5 fruits et légumes par jour, ce n'est pas sans raison. Ces dernières années, les études scientifiques se sont accumulées pour démontrer l'impact très important de l'alimentation sur notre santé. Nous en parlons avec le docteur Viviane de la Guéronnière. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de santé publique. Vous êtes également auteur de nombreuses publications sur la nutrition. Et vous venez d'écrire aux éditions Odile Jacob « Les aliments, leur vrai pouvoir sur la santé ». Est-ce que ce titre est exagéré ? Ou est-ce que les aliments ont réellement une action puissante sur notre organisme ?
Alors aujourd'hui, on peut vraiment dire que les aliments ont un effet puissant sur notre organisme et notre santé. Il y a de très nombreuses études qui sont parues, qui sont publiées, souvent sur des dizaines de milliers de personnes. Et toutes ces études à travers le monde qui apportent des résultats convergents nous montrent maintenant à quel point les effets des aliments peuvent intervenir sur notre santé et nous protéger.
Quels sont les aliments qui ont un effet vraiment puissant, vraiment majeur sur la santé?
Alors, par exemple, si on regarde la catégorie des fruits et légumes, on a des classes, par exemple, la classe des crucifères, c'est la famille des choux, en fait, mais aussi...
Choux, brocoli?
Exactement, choux, brocoli, mais aussi radis, roquettes, même moutarde. Et ces aliments contiennent des composés qui s'appellent les isothiocyanates, bon, et qui sont, en fait, à l'origine d'effets protecteurs sur notre santé en interagissant avec nos cellules de façon précise.
Mais quel style d'effet protecteur sur quel type de maladie?
Alors, on a des effets, des réductions de risque de maladies, de cancer notamment. Par exemple, on réduit le risque de cancer du poumon, de cancer digestif, de cancer de prostate, par exemple, avec cette catégorie de fruits, de légumes.
Est-ce qu'il y a, pour la prévention des cancers, d'autres aliments dont on a vraiment démontré l'efficacité?
Oui, alors on peut citer les végétaux d'une façon générale, les fruits et légumes qui contiennent des caroténoïdes, par exemple.
Donc dans les carottes en particulier?
Exactement, voilà. On a un effet qui est assez net de prévention du cancer du poumon chez les fumeurs.
Grâce aux bêta-carotènes?
Oui, tout à fait. Alors entendons-nous, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'arrêter de fumer, hein, c'est quand même la première chose à faire. Mais effectivement, on a observé que les personnes qui consomment beaucoup de bêta-carotènes qui viennent des carottes notamment, ont un risque diminué de contracter un cancer du poumon.
Ce bêta-carotène, on le trouve aussi en pharmacie sous forme de complément alimentaire. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Manger des carottes ou avaler des petites gélules?
Alors, c'est manger des carottes. Et ça a été un peu une grande surprise de scientifiques il y a environ une quinzaine d'années. Ils avaient observé auparavant que les gens qui mangeaient des carottes, justement, étaient protégés relativement du cancer du poumon. Ils se sont dit, on va faire une grande étude, on va donner le bêta-carotène en gélules, puisque tout le monde n'a pas envie de manger des carottes, et on va regarder ce qui se passe. Donc, ils ont fait de très grandes études, une en Finlande, une aux États-Unis, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et en cours d'analyse, stupeur en fait, ils se sont rendus compte que non seulement le bêta-carotène n'était pas efficace, mais en fait il favorisait même ce cancer du poumon chez les fumeurs.
Donc si on le prend sous forme de gélules,
voilà,
il faut vraiment privilégier les légumes.
Voilà.
On parle beaucoup de la prévention de certains cancers ou des maladies cardiovasculaires par l'alimentation, mais est-ce que certains aliments ont aussi un pouvoir sur des maladies neurologiques comme Parkinson, Alzheimer?
Oui, tout à fait. Alors, par exemple, pour le Parkinson, eh bien, on a observé que les gens qui consommaient davantage de café avaient un risque diminué de développer cette maladie. Et contre la maladie d'Alzheimer, par exemple, on a pas mal de données qui montrent les effets d'un régime méditerranéen avec du poisson, des fruits et légumes, une consommation modérée d'alcool, je dis bien modérée, et peut-être aussi le café.
Alors parfois on se demande si les bienfaits de certains aliments ne sont pas montés en épingle par les industriels qui financent certaines recherches. Par exemple, le pouvoir qu'on prête au café justement, mais au thé ou encore au chocolat, sont-ils exagérés?
Alors, il est vrai qu'il faut toujours être vigilant sur l'origine d'une étude et bien regarder qui l'a financée, ce qui ne préjuge pas bien sûr de sa valeur. Mais en l'occurrence, un certain nombre d'études effectivement ont été financées, beaucoup d'études ont été financées par des industriels. Et lorsqu'on retrouve des résultats positifs chez ces industriels, mais aussi au sein d'autres équipes qui ne sont pas du tout industrielles et qui sont publiques, lorsqu'on voit des résultats encore une fois convergents, eh bien on peut se dire que l'effet est tout de même réel.
Fin de la tâche 2. Vous allez maintenant entendre 5 personnes s'exprimer sur le thème des nouvelles technologies. Associez une opinion A à F à chaque locuteur, 16 à 20. Il devra vous rester une opinion ne correspondant à aucun locuteur. Veuillez indiquer vos réponses sur la feuille de réponse numéro 3, tâche 3. Vous avez maintenant une minute pour lire les questions. Numéro 1.
Un autre biais, à mon avis, c'est l'extension du nombre de rencontres possibles permises par les réseaux sociaux, qui favorise un certain zapping, en fait, des partenaires, que l'on sait dès le départ imparfaits, mais après tout, les utilisateurs préfèrent dans ce cas accumuler en fait une somme d'expériences imparfaites que de s'accrocher au mythe de l'âme sœur ou du prince charmant. Et enfin, et c'est sans doute selon moi le biais le plus important, les différents attributs des technologies ont souvent pour conséquence de rendre le passage en fait au réel beaucoup plus difficile. Plus la relation virtuelle en fait s'installe dans le temps, et ben plus la tentation est grande de s'y installer entre guillemets pour ne pas se confronter aux défauts du réel, à ses aspérités, à son imperfection, à faire face en fait à nos émotions et donc à l'apparition de notre corps. D'où le risque ensuite d'une certaine déception face à la réalité. Une fois que la rencontre physique se concrétise.
Numéro 2.
C'est un bon moyen, je pense, dans la mesure où c'est bien fait, dans la mesure où il y a des filtres suffisants pour éviter les mauvaises rencontres, précisément, voire même les arnaques, puisqu'on sait qu'elles existent, parce que c'est une façon d'élargir son champ de recherche avec des personnes qu'on ne serait pas amené à rencontrer dans la vie courante, que ce soit au travail, près de son domicile, chez ses voisins. Donc c'est un renouvellement complet de ces habitudes sociales très anciennes que sont l'homogamie et l'endogamie. Alors attention, l'homogamie, ce n'est pas le mariage homosexuel, c'est la propension qu'ont les gens de se marier à l'intérieur d'un même milieu social. Donc c'est quelque chose qui a prévalu pendant très longtemps, parce que c'était plus naturel, plus facile. Avec Internet, on a le moyen de se trouver des personnes qui sont très différentes de ce que l'on est nous, voire très ressemblantes, qui se ressemblent, s'assemblent, et surtout d'une zone géographique qui peut être l'autre bout du monde.
Numéro 3.
Ça, c'est un grand mensonge véhiculé par les pubs pour les sites de rencontres qui prétend que, grâce aux sites de rencontres, n'importe qui a sa chance et tout le monde va trouver l'amour. Et ce que j'ai remarqué très vite, c'est que quand on ne séduit pas dans la vraie vie, on ne séduit pas non plus sur les sites de rencontres. Et on peut le mesurer très facilement en lisant les annonces des gens. Il y a beaucoup d'annonces qui sont pleines d'aigreurs. C'était pourquoi vous venez pas me parler, des choses très simples comme ça. Et quand on rentre là-dedans, on s'attend à rentrer dans une espèce de paradis merveilleux de la rencontre et on ne tombe que sur des gens aigris. Donc déjà, on se dit, mais dans quoi j'ai mis les pieds? Et ensuite, beaucoup de gens mentent sur les sites de rencontres à des degrés divers. Bon, voilà, on ment sur son âge, on ment sur son apparence physique, on ment sur son métier. Et même quand on essaye d'être honnête et transparent au début, à force d'être confronté à des mensonges et des gens qui nous mentent, on se met à mentir nous-mêmes.
Numéro 4.
Il faut aussi garder en tête, c'est un point qu'on souligne, je pense, trop rarement quand il s'agit des rencontres en ligne, c'est une spécificité importante qui est que ces relations, elles portent moins à conséquences. Parce que lors des rencontres ordinaires, c'est quoi? On se rencontre dans une soirée, au travail, sur le lieu d'études. Donc souvent, ces personnes qu'on connaît, où il y a une interconnaissance, souvent il y a un public, souvent assez curieux, qui veut savoir comment ça se passe, alors que sur les sites de rencontres, on fait des rencontres en dehors et à l'insu de son cercle de sociabilité, de manière anonyme. Donc finalement, c'est des rencontres qui sont beaucoup plus discrètes, et finalement, on réfléchit un peu moins avant de s'engager dans une relation qu'on le fait dans un contexte ordinaire. Donc je pense que si les rencontres en ligne mènent souvent à des relations courtes, c'est pas forcément prévu, anticipé, c'est aussi le contexte particulier sur ces sites qui fait que ça va souvent assez vite.
Numéro 5.
De considérer que ce qui est virtuel, c'est un préalable, enfin c'est pas vraiment réel, ou c'est quand même moins bien, c'est de moins bonne qualité que si c'était pour du vrai, enfin dans la vie réelle. Or, moi, j'ai pris le parti exactement contraire. C'est-à-dire, il me semble que la dimension virtuelle, elle fait partie intégrante de la réalité, et a fortiori de la réalité des relations amoureuses. Lorsqu'il y a un rendez-vous et lorsqu'il y a une rencontre physique, là, on rejoint la réalité, on rejoint finalement des relations normales. Donc, ce qui est tout à fait original, à mon avis, c'est toute la phase antérieure, et de la phase qui, quelquefois, demeure virtuelle. Parce que certains refusent l'idée même d'un rendez-vous, ou alors se dérobe et refuse, enfin, la perspective d'une rencontre qui pourrait être et qui est toujours, de toute façon, décevante. Parce que, à partir du moment où vous êtes entré en contact avec quelqu'un à distance, il y a de très fortes chances que la rencontre réelle soit une douche froide.
Numéro 1.
Un autre biais, à mon avis, c'est l'extension du nombre de rencontres possibles permises par les réseaux sociaux, qui favorise un certain zapping, en fait, des partenaires, que l'on sait dès le départ imparfaits, mais après tout, les utilisateurs préfèrent dans ce cas accumuler en fait une somme d'expériences imparfaites que de s'accrocher au mythe de l'âme sœur ou du prince charmant. Et enfin, et c'est sans doute selon moi le biais le plus important, les différents attributs des technologies ont souvent pour conséquence de rendre le passage en fait au réel beaucoup plus difficile. Plus la relation virtuelle en fait s'installe dans le temps, et ben plus la tentation est grande de s'y installer entre guillemets pour ne pas se confronter aux défauts du réel, à ses aspérités, à son imperfection, à faire face en fait à nos émotions et donc à l'apparition de notre corps. D'où le risque ensuite d'une certaine déception face à la réalité. Une fois que la rencontre physique se concrétise.
Numéro 2.
C'est un bon moyen, je pense, dans la mesure où c'est bien fait, dans la mesure où il y a des filtres suffisants pour éviter les mauvaises rencontres, précisément, voire même les arnaques, puisqu'on sait qu'elles existent, parce que c'est une façon d'élargir son champ de recherche avec des personnes qu'on ne serait pas amené à rencontrer dans la vie courante, que ce soit au travail, près de son domicile, chez ses voisins. Donc c'est un renouvellement complet de ces habitudes sociales très anciennes que sont l'homogamie et l'endogamie. Alors attention, l'homogamie, c'est pas le mariage homosexuel, c'est la propension qu'ont les gens de se marier à l'intérieur d'un même milieu social. Donc c'est quelque chose qui a prévalu pendant très longtemps, parce que c'était plus naturel, plus facile. Avec Internet, on a le moyen de se trouver des personnes qui sont très différentes de ce que l'on est nous, voire très ressemblantes, qui se ressemblent, s'assemblent, et surtout d'une zone géographique qui peut être l'autre bout du monde.
Numéro 3.
Ça, c'est un grand mensonge véhiculé par les pubs pour les sites de rencontres qui prétend que, grâce aux sites de rencontres, n'importe qui a sa chance et tout le monde va trouver l'amour. Et ce que j'ai remarqué très vite, c'est que quand on ne séduit pas dans la vraie vie, on ne séduit pas non plus sur les sites de rencontres. Et on peut le mesurer très facilement en lisant les annonces des gens. Il y a beaucoup d'annonces qui sont pleines d'aigreurs. C'était pourquoi vous venez pas me parler, des choses très simples comme ça. Et quand on rentre là-dedans, on s'attend à rentrer dans une espèce de paradis merveilleux de la rencontre et on ne tombe que sur des gens aigris. Donc déjà, on se dit, mais dans quoi j'ai mis les pieds? Et ensuite, beaucoup de gens mentent sur les sites de rencontres à des degrés divers. Bon, voilà, on ment sur son âge, on ment sur son apparence physique, on ment sur son métier. Et même quand on essaye d'être honnête et transparent au début, à force d'être confronté à des mensonges et des gens qui nous mentent, on se met à mentir nous-mêmes.
Numéro 4.
Il faut aussi garder en tête, c'est un point qu'on souligne, je pense, trop rarement quand il s'agit des rencontres en ligne, c'est une spécificité importante qui est que ces relations, elles portent moins à conséquences. Parce que lors des rencontres ordinaires, c'est quoi? On se rencontre dans une soirée, au travail, sur le lieu d'études. Donc souvent, ces personnes qu'on connaît, où il y a une interconnaissance, souvent il y a un public, souvent assez curieux, qui veut savoir comment ça se passe, alors que sur les sites de rencontres, on fait des rencontres en dehors et à l'insu de son cercle de sociabilité, de manière anonyme. Donc, finalement, c'est des rencontres qui sont beaucoup plus discrètes, et finalement, on réfléchit un peu moins avant de s'engager dans une relation qu'on le fait dans un contexte ordinaire. Donc, je pense que si les rencontres en ligne mènent souvent à des relations courtes, c'est pas forcément prévu, anticipé, c'est aussi le contexte particulier sur ces sites qui fait que ça va souvent assez vite.
Numéro 5.
De considérer que ce qui est virtuel, c'est un préalable, enfin c'est pas vraiment réel, ou c'est quand même moins bien, c'est de moins bonne qualité que si c'était pour du vrai, enfin dans la vie réelle. Or, moi, j'ai pris le parti exactement contraire. C'est-à-dire, il me semble que la dimension virtuelle, elle fait partie intégrante de la réalité, et a fortiori de la réalité des relations amoureuses. Lorsqu'il y a un rendez-vous et lorsqu'il y a une rencontre physique, là, on rejoint la réalité, on rejoint finalement des relations normales. Donc, ce qui est tout à fait original, à mon avis, c'est toute la phase antérieure, et de la phase qui, quelquefois, demeure virtuelle. Parce que certains refusent l'idée même d'un rendez-vous, ou alors se dérobe et refuse enfin la perspective d'une rencontre qui pourrait être et qui est toujours de toute façon décevante. Parce que à partir du moment où vous êtes entré en contact avec quelqu'un à distance, il y a de très fortes chances que la rencontre réelle soit une douche froide.
Fin de la tâche 3. Vous disposez maintenant de 3 minutes pour vérifier vos réponses et les recopier sur la feuille de réponse 3. fin de l'épreuve.